Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Du Mexique à la Patagonie, en passant par l'Argentine, leur terre natale, les écrivains Santiago Amigorena et Martin Caparrós ont été les invités de Book Club sur France Culture le 9 juin 2023 pour raconter leur histoire personnelle de l'Amérique hispanophone.
On l'appelle l'Amérique du Sud, car c'est la partie méridionale de ce continent située majoritairement dans l'hémisphère sud. On l'appelle aussi l'Amérique latine, car elle englobe ces pays qui ont en commun d'utiliser comme langue officielle des langues romanes, l'espagnol bien sûr, le portugais ou encore le français, des langues dérivées du latin. Mais cela fait-il une unité ? Pour comprendre l'histoire passée de ce continent et son présent, rien de mieux que le voyage, parcourir ces 20 millions de kilomètres carrés, au moins en partie, découvrir ses peuples, ses langues, donc dresser le portrait d'un continent divisé. Pour cela, nous avons invité deux écrivains baroudeurs nés en Argentine. Bonjour Santiago Amigorena.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous à distance et en direct dans le Book Club. Alors, vous êtes romancier, l'auteur aux éditions POL d'un immense projet autobiographique que vous avez intitulé Le Dernier Livre. Vous l'avez découpé en 6 grandes parties. Une jeunesse à faune, c'est le titre de la deuxième partie dont vous nous présentez aujourd'hui le chapitre 1 qui s'intitule Le Premier Exil. Vous nous racontez dans ce chapitre les 6 années de votre enfance que vous avez passées en Uruguay quand votre famille avait dû fuir l'Argentine où vous êtes né après le coup d'État militaire. On est donc en quelque sorte aux origines de ce projet littéraire, puisque c'est à ce moment-là, très jeune, à l'âge de 6 ans, que vous avez débuté l'écriture.
C'est à 6 ans que j'ai appris à écrire. Donc oui, d'une certaine façon, j'ai débuté toutes les écritures possibles à ce moment-là. On peut dire que ce livre-là est à l'une des origines, donc l'apprentissage de l'écriture à 6 ans, et un premier exil d'Argentine en Uruguay, dû à une dictature que tout le monde a un peu oubliée.
Racontez-nous peut-être juste en un mot, qu'est-ce que vous écrivez au moment où, à l'âge de 6 ans, vous apprenez à écrire? Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers écrits, poèmes, récits?
Oui, en fait, c'est l'ensemble de l'histoire de tout le projet raconte la vie d'un narrateur qui ne parle pas, donc qui est un enfant absolument laconique et qui, en découvrant l'écriture, je pense qu'il a une langue possible. Et en fait, après, peu à peu, à l'adolescence et dans l'âge adulte, il se rend compte que l'écriture est aussi une autre forme de silence. Donc entre 6 ans et 12 ans, il y a un peu l'enthousiasme d'apprendre à écrire et de se dire, voilà, c'est possible de parler. Et évidemment, parler dans l'écriture, c'est toujours à travers des métaphores, des jeux de mots, voilà, des jeux de langage qui sont peut-être plus complexes que ceux de la langue orale. Donc dans le livre, il y a des poèmes écrits à cette époque-là. Il y a aussi évidemment des poèmes apocryphes que j'ai menti avoir écrits quand j'avais 6, 7, 8 ans. Puisque tout ce que je raconte sur cet enfant qui s'appelle Santiago Amigorena est vrai et faux à la fois.
Notre second invité, c'est Martin Caparrós. Bonjour.
Bonjour.
Je vous ai entendu rire pendant que Santiago Amigorena racontait son enfance. Vous êtes né, vous aussi, en Argentine. Ça vous parle, ce que vient de raconter Santiago?
Ah ouais, absolument. Je riais des poèmes qu'il dit avoir forgé comme étant écrits à 6 ans, 7 ans. Je suppose que c'est ça quoi. Sa vergogne de dire qu'il les a vraiment écrits quand il avait 6 ou 7 ans.
Il y a une particularité dans le fait de parler à distance avec Martin Caparrós. C'est qu'il est un personnage assez important de mes livres, puisqu'il m'a connu quand je suis né, on est cousins très proches. Et donc voilà, je me méfie de tout ce que je peux dire là, parce que ce sera infirmé absolument par mon cousin.
Martin Caparrós, qui est donc journaliste, oui, romancier, essayiste, une figure intellectuelle majeure du monde hispanophone, nous dit votre éditeur Gallimard, chez qui vous publiez en ce mois de juin un voyage dans le présent de l'Amérique hispanique. Son titre, c'est Niamérique, puisque c'est ainsi que vous rebaptisez l'Amérique hispanique, l'Amérique latine, pour souligner à la fois son étrangeté et ses liens privilégiés avec la langue espagnole.
Bon, je voulais essayer de de raconter et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'Amérique qui parle castillan en ce moment, une région sur laquelle on a tant de clichés, tant de lieux communs et si peu de connaissances.
Santiago Amigorena, Borges, votre compatriote argentin, est-ce que ça reste une référence pour vous? Est-ce que vous êtes aussi plus critique sur ce qu'il écrit au début du XXe siècle?
C'est tout simplement un des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature mondiale. Pour moi, c'est une référence absolue. Dans le XXe siècle, je ne pense pas qu'il y ait 5 écrivains qui soient aussi importants que Borges. C'est quelqu'un qui a fait une œuvre qui est absolument incomparable, qui est en même temps un seul livre immense, qui est comme le labyrinthe dont il parle souvent et où on rentre par chaque poème, par chaque nouvelle, par chaque essai, parce qu'il n'a écrit que des textes courts. Donc c'est sa particularité, mais ça forme un livre absolument immense que je n'ai jamais cessé de lire. Depuis que j'ai 11 ans, mon père m'avait offert un livre de Borges à ce moment-là, Le rapport de Brody, qui venait de paraître. Donc c'est un écrivain qui est extrêmement important pour moi.
Vous écrivez dans quelle langue ?
Moi, j'ai toujours écrit en français. En fait, je suis arrivé en France quand j'avais 12 ans, donc j'ai plus lu en français. Et le français, d'ailleurs, a cette particularité qui est assez extraordinaire, c'est d'accueillir énormément d'écrivains de langue maternelle étrangère. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tradition depuis Casanova, Potocki, évidemment jusqu'à Beckett, Cioran, la bande roumaine, disons. C'est une langue qui a beaucoup accueilli d'écrivains, ce qui n'est pas le cas de l'espagnol, par exemple. Je me sens très accueilli par la langue française, par la France. C'est une autre histoire. Je pense que peut-être le français accueille tellement parce que la France accueille un peu mal. Mais je peux écrire des poèmes ou des petites choses en anglais ou en espagnol, mais ma langue vraiment d'écriture est le français.
Ce qui est marquant dans votre récit, le premier exil, c'est cet arbre branchu dont vous parlez, le gomero. C'est là où vous avez passé une partie de votre enfance, perché dans cet arbre. Et cet arbre, c'est un peu le symbole de ce que vous appelez justement ce premier exil, puisque vous êtes né en Argentine et que vous avez dû quitter l'Argentine pour l'Uruguay. Quel souvenir vous avez de ce moment? Qu'est-ce qui explique ce chemin de l'exil pour votre famille?
En fait, dans le livre, j'essaye de raconter cet exil comme je l'ai vu alors, donc quand j'avais 6 ans. Les raisons, elles sont assez simples. Il y a eu un coup d'État d'Onganía, donc il y a un coup d'État qui est un peu tombé dans l'oubli parce que ce n'est pas le coup d'État le plus fameux, celui de Videla, qui est le plus sanglant aussi, le plus dur, qui a eu lieu en 76. Donc moi, je parle d'un exil dans les années 60 qui nous a fait partir un an et demi après. Donc, la particularité de ce coup d'État avait été de fermer des universités. Il y a un événement qui est très connu dans l'histoire argentine récente qui s'appelle la nuit des longs bâtons, parce que la police est allée frapper les étudiants et les professeurs d'une manière un peu indistincte à l'université de Buenos Aires. Mon père était prof à la fac et mes deux parents étaient psychanalystes, et on avait interdit aussi aux psychanalystes d'exercer s'ils n'étaient pas médecins, ce qui était aussi le cas de ma mère et mon père. Donc voilà, le départ en Uruguay s'est fait pour ces raisons-là. Mais mes souvenirs précis, c'est vraiment des souvenirs enfantins que j'essaye de retrouver, que j'essaye de raconter en restant plutôt l'enfant que j'étais, ou en tout cas en écoutant cet enfant-là sans lui coller tout le fatras adulte dont on encombre notre mémoire.
L'Uruguay que vous décrivez aussi comme une énigmatique Suisse de l'Amérique latine, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est un pays très particulier. Il a cette fonction particulière d'être entre les deux grandes puissances de l'Amérique du Sud, la vraie grande puissance qui est le Brésil et la fausse grande puissance qui est l'Argentine. Et au milieu, il y a ce pays tampon, un peu comme la Suisse ou comme le Liban, et qui est devenu un pays de banque, un pays de finances, un pays qui a connu pendant très longtemps une démocratie un peu plus durable que les autres pays latino-américains, où il n'y avait pas une tradition de l'armée de prendre le pouvoir tous les 6 mois ou tous les 2 mois. Il a un certain nombre de ressemblances avec la Suisse.
On parlait de la langue tout à l'heure. Racontez-moi votre vision de cette Amérique que vous n'appelez pas Amérique latine, mais plutôt Amérique hispanique, il y a une musicalité, une langue aussi dans ces récits-là.
J'ai passé beaucoup d'années à parcourir l'Amérique latine. Depuis une trentaine d'années, je fais du journalisme, des grands reportages, des chroniques sur le continent. Mais à un moment donné, il y a 5-6 ans, je me suis dit que la plupart des choses qu'on croyait savoir, qu'on croyait penser sur cette région, étaient déjà dépassées, correspondaient à des réalités anciennes ou étaient juste des mythes, enfin des lieux communs, des clichés. Et que ça valait peut-être la peine que de réviser tout ça et voir comment c'est en réalité maintenant ce continent. Dès lors, j'ai commencé à le parcourir à nouveau, cette fois-ci avec un plan qui venait du fait que j'avais quand même trouvé une première piste dans tout ça. C'est que, tandis qu'on pense en général, surtout du loin, l'Amérique latine comme étant une espèce de grand coin de la nature, enfin les selves, les montagnes, les vers, l'exubérance et tout ça. Bon, et c'est justement en ce moment la région où il y a la plus grande proportion de populations urbaines au monde. Il y a 50 ans, la majorité de la population était rurale. Maintenant, l'énorme majorité est urbaine. Donc, c'est un continent qui a énormément changé dans la mesure où il y a eu tout ce déplacement. Alors, j'ai commencé ma recherche en visitant les 7 ou 8 villes que j'ai trouvées les plus importantes et en essayant de raconter comment elles sont, pour ensuite essayer de travailler sur certains problèmes, certaines questions précises de la région. Et j'ai appelé ça Niamérique ou Amérique hispanique parce que je me suis vu d'une certaine façon forcé à laisser dehors le Brésil. Le Brésil, c'est une réalité tout à fait différente, des proportions tout à fait différentes, une histoire différente, une langue différente. On ne se rend pas compte, nous, en Amérique latine, l'originalité absolue du fait qu'il y ait 20 pays qui parlent la même langue. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il existe plutôt le contraire. Des fois, il y a un pays où l'on parle 20 langues, mais 20 pays où l'on n'en parle qu'une, ça n'existe nulle part et ça crée quelque chose.
Avec des disparités aussi, puisque vous racontez évidemment dans cette langue espagnole qui vient évidemment du latin, il y a des différences et entre certains pays, le même mot n'a pas le même sens. Par exemple, ça m'a beaucoup amusé.
Ah ouais, on s'amuse avec ça, bien sûr. Mais on peut s'amuser parce qu'on a une base commune, alors on cherche les différences et on se marre beaucoup, beaucoup. Et on se marre de l'étranger qui vient, je ne sais pas, en Argentine, un Espagnol qui dit « quiero coger el autobús ». Et là, en argentin, ça voudrait dire qu'il voulait faire l'amour avec un bus, ce qui est difficile pour le moins. Oui. Et d'autres, en fait, c'est incontable.
Qu'est-ce qui qualifie, qu'est-ce qui définit cette culture niaméricaine d'Amérique hispanique, selon vous?
Malheureusement, il y a pas mal de traits qui ne sont pas très positifs, disons. Déjà, c'est la région la plus inégale du monde. Et ça, c'est dur. Et j'ai essayé aussi de penser pourquoi. Je veux dire, ne pas me limiter à le signaler, mais d'essayer de penser pourquoi. J'ai une petite hypothèse là-dessus que je pourrais essayer de synthétiser. C'est que depuis le début, depuis le 16e siècle, la richesse de l'Amérique latine, c'était l'extraction et l'exportation des matières premières. Depuis l'argent que les Espagnols prenaient au Potosi, jusqu'à la coke ou cocaïne que les Colombiens ou Mexicains exportent maintenant, en passant par tout le reste, la canne à sucre, le soja, le blé, la viande, le cuivre, le pétrole, etc. C'était toujours la même chose, c'est extraction et exportation de matières premières. Or, quand une richesse, quand une société est basée là-dessus, les riches n'ont pas trop besoin de leurs pauvres pour travailler, parce que cette extraction n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Alors, ils n'ont pas besoin de leurs pauvres pour travailler. Et comme, en plus, le marché est ailleurs, parce que c'est une exportation, alors ils n'ont pas non plus besoin de leurs pauvres pour consommer. Donc, ils n'ont pas besoin de leurs pauvres. Donc, ils peuvent les garder dans des situations vraiment insupportables.
Dans les garder dans une situation de pauvreté encore plus forte et de ne pas les en sortir. Santiago Amigorena, vous avez cette même image d'un continent, d'une région du monde très inégalitaire, très divisée?
Oui, bien sûr. Je pense que D'une certaine façon, le fait qu'elle soit arriérée par rapport à ce qu'on pourrait appeler un progrès où les pauvres sont moins pauvres, n'empêche pas qu'elle est aussi en avant-garde d'une certaine façon, parce que partout dans le monde, les pauvres sont chaque fois plus pauvres et les riches sont chaque fois plus riches. Donc c'est peut-être une particularité qui va se perdre peu à peu, mais je suis tout à fait d'accord avec Martin. C'est historiquement, c'est un pays où les gens au pouvoir politique et économique n'a jamais eu besoin de s'occuper des pauvres, c'est-à-dire de son peuple.
Ils ont besoin juste d'un État qui les contienne. C'est à ça qu'ils servent, les États américains. C'est à contenir ces pauvres dont on ne s'occupe pas autrement et à les contenir soit, dans les cas les plus faciles, par le biais des dons de bouffe ou des allocations, etc. Et dans certains cas où ça ne marche plus, avec l'usage de la violence.
On est en train de se demander dans le book club qui pour raconter cette culture, sa région. Alors il y a évidemment vous deux, nos invités, mais il y a aussi des écrivains qui connaissent un grand succès dans tous les coins de la planète, et notamment Gabriel Garcia Marquez, Pierre Croz de Babelio.com, qui est l'un des livres peut-être les plus reconnus et commentés sur Babelio.
Sur l'étiquette Amérique du Sud, c'est le livre qui est le plus populaire. C'est donc effectivement 100 ans de solitude, magnifique saga sur un siècle contenant grandeur et décadence sur 7 générations d'une famille entre exil, révolution, exploitation, sans presque sortir de ce village de Macondo. J'y vois aussi un petit côté Zola à travers la recherche de l'auteur des ressemblances, dissemblances générationnelles. Une autre critique, l'écriture de Garcia Marquez m'a étrangement rappelé celle de Zola et j'ai très souvent eu l'impression de lire les Rougon-Macquart en version condensée et abrégée. Est-ce que vous voyez, vous, les parallèles entre ces écrivains et surtout sur la littérature peut-être sud-américaine, ces romans-là, qu'est-ce qui explique le fait qu'ils soient encore pertinents aujourd'hui ?
Martine Caparros.
S'il n'a jamais été pertinent, ce qui est déjà une assumption sur laquelle on pourrait discuter. Entre Zola et Garcia Marquez, je vois vraiment peu de ressemblances, surtout pensant au fait que Zola était un réaliste acharné et Garcia Marquez est un irréaliste ou réaliste magique, disons. Et là, ça les sépare complètement. Et ça met Garcia Marquez dans l'endroit où il fallait être, parce que ça permet aux lecteurs du monde de continuer d'imaginer l'Amérique latine comme cette terre un peu mythique, un peu magique, où il se passe des choses étranges, où les femmes volent et les... je sais pas.
C'est ce que vous dites, c'est ce fameux boom des années 60. Vous dites que ces écrivains ont mis au point une image de la Ni-Amérique qui a perduré, verte, vigoureuse, tragique, mystérieuse. Aujourd'hui, on en revient, c'était une démarche romantique de dépeindre une région avec peut-être une idée en tête de la dépeindre de façon un peu positive, trop positive peut-être.
C'est pas que ce soit positif ou pas, c'est ce qui me dérange là, c'est que c'est surtout mythique, je veux dire, et que ça suit les mythes européens sur l'Amérique. Depuis le moment où le premier Européen, Christophe Colomb, a mis le pied dans sa première île, il a commencé par y projeter son mythe à lui. Il a dit « c'est le paradis ». C'est le grand mythe de l'époque. Après, il y avait le mythe d'Eldorado et les gens y allaient chercher de l'or partout. C'était un autre mythe. Après, il y a les jésuites qui sont venus essayer d'y appliquer toutes ces idées sur le bon sauvage, disons, un peu roussonienne, aussi là-bas. Au 19e siècle, il y a eu cette république que l'on voyait du loin de l'Europe comme étant un toucher, disons, par le lest des vieilles aristocraties et qui donc pourraient être différentes et plus modernes. Et au XXe siècle, il y a eu tout ce mythe de Guevara, la guérilla, etc. Ça a été toujours le territoire où les Européens ont déposé leur rêve distant, ce qu'il fallait garder à la distance pour ne pas en constater l'échec. Et Garcia Marquez y a beaucoup contribué, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que Borges était beaucoup plus révolutionnaire que Garcia Marquez. Il a contesté le lieu où l'Europe avait placé l'Amérique latine et il a réclamé pour nous, écrivains de là-bas, la possibilité d'écrire de tout, non pas seulement de ces petites choses américaines, latino-américaines.
Santiago Amigorena, est-ce que vous choisissez un camp, vous, de votre côté et pour aller plus loin, qu'est-ce que représente votre démarche d'écriture autobiographique aussi dans le portrait que vous voulez faire de cette région du monde ?
Je m'attache très peu à faire un portrait d'une région du monde parce que j'ai déjà tellement de mal à faire mon portrait à moi que j'ai déjà écrit 3000 ou 4000 pages sur moi-même. Je pense que le jour où je passerai au reste du monde, voilà, il faudra commencer à brûler mes livres. Je suis évidemment d'accord, j'ai beaucoup lu Garcia Marquez quand j'étais adolescent. Ça ne m'étonne pas que ça ait encore du succès, mais je pense que c'est vraiment un moment très particulier de la littérature latino-américaine. Effectivement, c'est un mouvement qui s'appelle le réalisme magique, qui a eu beaucoup de succès. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup de postérité, quoi. Je doute de ça. Borges, c'est vrai qu'il a une démarche beaucoup plus pertinente, parce qu'il réconcilie ce qu'il y a de plus européen, ce qu'il y a, voilà, la culture classique européenne et aussi toute la modernité du XXe siècle européen, avec des sources un peu, comment dire, mythiques, mais en restant réalistes. C'est-à-dire qu'il s'attache énormément à des figures du folklore argentin, les malevos, les voyous des mauvais quartiers, même la terre, le paysage urbain, mais en donnant cette possibilité, on parlait Martine, d'écrire comme si on était européen.
Comme si on était nulle part, non pas européen.
Oui, voilà,
comme si
part.
L'endroit depuis lequel on écrivait n'importait pas, je veux dire, sans entrave. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il a revendiqué, il a pratiqué le mélange le plus absolu, sans laisser de côté aucune source, aucune possibilité. Et s'il y a quelque chose qui distingue l'Amérique latine, l'Amérique, c'est que c'est la terre du mélange. C'est la terre où il n'y a pas de pureté. Et dans un moment où le monde discute tellement sur les puretés possibles, il y a une terre où il n'y a pas de pureté, enfin on ne peut pas revendiquer aucune sorte de pureté, parce qu'on vient du mélange de trois ou quatre grandes courants. Ça me plaît beaucoup.
Et ce qui me fait penser à cette question, vous dites, Martine Caparrós, que vous ne reconnaissez, vous reconnaissez pardon, que ce n'est pas très clair ce qu'est être latino-américain ou ni-américain. Alors qu'est-ce qu'on met derrière cette identité? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est justement quelque chose de très mélangé ou est-ce que c'est très clair aujourd'hui?
C'est très mélangé et c'est peut-être pour ça que c'est très clair. Je veux dire, le mélange est une façon d'être et c'est la façon d'être qui me plaît sans doute. Mais il y a beaucoup de traits communs. Je veux dire, on parlait de la langue, mais on peut parler de beaucoup de faits culturels au-delà du regard extérieur. Plusieurs de ces traits communs ne sont pas trop revendicables, je veux dire. Mais ils sont aussi à discuter, parce que, par exemple, il y a un trait qu'on attribue très facilement aux Américains, c'est qu'on est la région la plus violente du monde. Et moi, je me suis mis à réviser cette idée dans le livre. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on soit la région la plus violente, tandis que pendant tout le XXe siècle, en Europe, il y a eu dans les 85 millions de morts par la violence des États, en Asie, 100 millions, en Afrique, 15 ou 20 millions, et en Amérique latine, il y a eu à peine, enfin même pas 2 millions, ce qui est énorme, mais qui est infiniment moins que dans n'importe quel autre lieu. Alors, c'est vrai que c'est nous, les violents. Là, j'ai développé un truc qui serait un peu long à raconter sur la privatisation de la violence dans les dernières décennies, etc.
Mais par exemple, vous, Santiago Amigorena, on parlait de mélange, d'identité multiple. Vous écrivez comme tous les hommes, je suis un enfant de la mer. Et bien que ce fût à Buenos Aires, c'est à Montevideo que je suis né. Et vous racontez l'Uruguay et ce petit pays paisible qui, dites-vous, va devenir lui aussi peu à peu violent. Donc ça veut dire que vous racontez, vous aussi, ce sentiment-là?
Oui, je pense qu'on partage aussi quelque chose avec Martine, c'est le fait qu'on ne considère pas que l'identité est définitive, surtout qu'on ne considère pas que l'identité est quelque chose qui se rattache à une terre, dans le sens de se rattacher à un pays, voilà, un État-nation. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, moi, je suis né dans la réalité à Buenos Aires, mais je suis né aussi à Montevideo, comme je suis né en Grèce. Je dirais que ça dépend des jours, ça dépend des heures de la journée parfois. Donc.
C'est bien pratique. Un mot peut-être pour arriver vers la fin de l'émission, mais sur qui représente aujourd'hui le mieux, qui écrit le mieux, en tout cas est le plus fidèle à la réalité. Marceline, notre auditrice, nous parle de Mariana Enríquez, qui est membre d'un groupe d'écrivains qui est connu sous le nom de Nouveau Récit Argentin. Il y a une nouvelle façon aujourd'hui, plus réaliste, plus fiable, de raconter ce qu'est l'Argentine et cette Amérique hispanique, Martín Capaos.
J'espère vraiment que l'Argentine ne soit pas ce que Mariana raconte, parce que sinon ce serait vraiment dur à vivre. C'est déjà très dur à vivre, mais c'est peut-être pas aussi dur que dans les livres de Mariana Enríquez, que je respecte beaucoup. Je crois que ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un axe. C'est qu'il y a une espèce de floraison très disparate, enfin pleine de différentes possibilités, différentes voies. Et c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, je voudrais pas réduire ça à une voie plus droite que les autres, non ?
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes.